Entre-temps, la nuit était venue, quoique les bougies éclairassent très bien la chambre, et je me surpris à regarder constamment derrière et autour de moi. Quelle épreuve pour les nerfs que cette attente de l'être qui allait venir! Soudain, je sentis, soufflant de derrière moi, un petit vent froid. Un frisson parcourut mes nerfs et l'impression de piqûre me traversa la nuque. Je pirouettai sur moi-même d'une sorte d'élan roide et fis face au vent étrange. Il semblait provenir du coin de la chambre à la gauche du lit, l'endroit même où, deux fois, j'avais trouvé le tas de couvertures. Pourtant, je ne voyais rien d'anormal, rien ne s'ouvrait, rien. Tout à coup, les bougies tremblotèrent, prêtes à s'éteindre dans ce vent suspect. Je m'accroupis et mon regard, effrayé jusqu'à la stupéfaction, s'immobilisa quelques minutes. Je ne pourrais jamais vous faire comprendre combien il était pénible et démoralisant d'attendre, là, assis, dans cet odieux vent froid. Et alors, flic, 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 toutes les bougies s'éteignirent autour de la barrière extérieure, et je fus là, sous clé et sous scellé, dans cette chambre sans autre lumière que la pâle lueur bleue du pentacle électrique. Des moments d'affreuse tension passèrent, et le vent soufflait toujours. Soudain, quelque chose remua dans le coin à la gauche du lit. J'en eus conscience, plutôt par l'intuition d'un sens intérieur et inaccoutumé que par l'ouïe ou la vue. Car le débile et court rayonnement du pentacle me donnait qu'un éclairage bien sommaire. Pourtant, comme je tressaillais, ce quelque chose commença lentement à s'étendre peu à peu devant mes yeux, une ombre mouvante, plus noire que les ombres qui l'environnaient. Elle se perdit bientôt dans le vague, et pendant une minute ou deux, je lançai de côté et d'autre de rapides coups d'œil, avec un sens renouvelé de danger suspendu. Puis, le lit attira mon attention. Les couvertures en étaient tirées avec un mouvement à la fois persistant et furtif. J'entendais le lent et traînant bruit des draps, mais ne voyais rien de l'être qui tirait. Je constatais, d'une manière subconsciente et introspective, que la chair de poule me ressaisissait, et aussi cette sensation de piqûre derrière la tête. Mentalement, néanmoins, je possédais plus de sang-froid que durant les minutes antérieures, assez pour sentir la sueur froide sur mes mains et pour faire passer, d'un mouvement à demi-conscient, mon revolver dans ma main gauche, pendant que j'essuyais ma main droite sur mon genou. Mais sans détourner, même pour un instant, mon regard de ces mouvantes couvertures. Les faibles bruits qui venaient du lit cessèrent tout à coup, et, durant l'intervalle de silence profond qui leur succéda, je n'entendis que le battement mat du sang contre mes tempes. Cependant, le froissement des couvertures arrachées du lit se fit de nouveau entendre. Au milieu même de mon angoisse nerveuse, je me rappelai mon appareil photographique et m'en emparai, mais sans cesser de surveiller le lit. Et voilà qu'au même instant, toute la literie, enlevée avec une extrême violence, fut lancée dans le coin où elle s'abattit avec un bruit sourd. Pour une couple de minutes, le silence devint absolu, mais combien horrible! La literie avait été jetée avec une telle vigueur sauvage et qu'on sentait trop n'être point humaine. Soudain, près de la porte, il y eut un craquement léger. Puis, sur le parquet, le choc, plus léger encore, d'un peu de cire qui tombe. Un grand frisson nerveux me parcourut toute l'épine dorsale. Le sceau de la porte venait d'être brisé. Quelqu'un était là. Je ne pouvais rien voir, ou, pour m'exprimer plus correctement, je ne pouvais délimiter ce qu'en effet je voyais et ce que mon imagination se chargeait de faire apparaître. Je n'apercevais tout d'abord que le mur gris, se prolongeant. Mais bientôt, il me semble avoir quelque chose de noir et d'indistinct remué parmi les ombres. Je me rendis compte aussi que la porte s'ouvrait et, de nouveau, fis effort pour saisir mon appareil. Mais avant que j'eusse pu m'en servir, la porte retomba avec un vacarme terrifiant qui remplit toute la chambre. Je sursautai, comme un enfant qui s'effraie. Il y avait une telle puissance dans ce bruit, comme si une force capricieuse et immense était déchaînée. Me comprenez-vous bien? Il ne fut plus touché à la porte. La corbeille où se trouvait le chat eut un craquement. Je sentis dans le dos comme des myriades de pointes d'épingles. J'allais apprendre définitivement si l'être qui hantait ce lieu pouvait mettre en danger la vie. Le chat poussa un miaulement hideux et se tut. Alors, trop tard, je dardai la lumière de la lampe à incandescence. Dans la subite clarté, je vis la corbeille retournée, le couvercle arraché et le chat gisant, moitié dans la corbeille, moitié sur le plancher. Je ne vis rien d'autre, mais je savais désormais sans nul doute que je me trouvais en présence d'un être possédant le pouvoir de détruire. Durant les 2 ou 3 minutes suivantes, une tranquillité vraiment remarquable régna. D'ailleurs, j'étais aveuglé par la fulguration de la lampe, de sorte que, par-delà le rayonnement du pentacle, l'obscurité demeurait d'un noir d'encre. Je le répète, c'était horrible. Agenouillé dans l'étoile, je pirouettais sur mes genoux, essayant de voir si la chose épouvantable venait sur moi. Je recouvrais, peu à peu, et la vue et la domination de moi-même. Soudain, je la vis, cette chose énorme et indistincte, tout contre le cercle d'eau. Et se balançant curieusement, comme si, dans l'ombre, immédiatement au-delà de la barrière, une monstrueuse araignée s'agitait, suspendue. Elle tournait rapidement autour du cercle et paraissait vouloir se précipiter sur moi, mais seulement pour se retirer aussitôt, avec d'extraordinaires mouvements comparables à ceux d'une personne vivante qui toucherait une barre de fer rougie au feu. Elle tournait et je tournais avec elle. Alors, juste en face d'une des vallées du pentacle, elle s'arrêta et parut se recueillir pour un formidable effort. Elle se recula comme si elle eût voulu se renfoncer dans les ténèbres, puis vint droit à moi, gagnant en forme et en solidité à mesure qu'elle approchait. Je sentais, derrière ce mouvement, une détermination profonde et maligne qui devait l'emporter. Toujours à genoux, je me rejetais en arrière dans un effort désespéré pour échapper à l'être qui s'avançait et retombait sur ma main gauche. De la main droite, je cherchais à ressaisir mon revolver que j'avais laissé glisser. Le monstre, d'un grand mouvement enveloppant, passa par-dessus l'espace frotté d'ail et le cercle d'eau et toucha presque l'intérieur du pentacle. Je crois qu'un hurlement m'échappa. Alors, aussi subitement qu'il s'était avancé, il sembla violemment repoussé par une force puissante et invisible. Il me fallut quelques moments avant de me rendre compte que j'étais sain et sauf. Je me ramassai tout entier au centre du pentacle, terriblement ému et secoué, et parcourant du regard la circonférence de la barrière. Mais la vision s'était évanouie. Pourtant, j'avais appris quelque chose. Je savais à présent que la chambre grise était hantée par une main monstrueuse. Comme je gisais là, je vis tout à coup ce qui avait failli permettre au monstre de franchir la barrière. En me remuant au-dedans du pentacle, j'avais probablement heurté un des vases d'eau, car, juste à l'endroit où l'attaque s'était produite, le vase qui gardait le creux de la vallée avait bougé, laissant une des 5 portes sans défense. Je le replaçai aussitôt et redevins presque tranquille. J'avais découvert la cause de l'alerte et la défense tenait bon. Je me repris à espérer que le matin me trouverait vivant, car, au moment où j'avais vu l'assaut si près de réussir, l'idée s'était emparée de moi, démoralisante, que les barrières ne me garantiraient jamais toute la nuit contre une telle force. De longtemps, je ne pus revoir la main. Mais, une fois ou deux, je constatai une singulière ondulation parmi les ombres, près de la porte. Un peu plus tard, comme dans un soudain accès de rage, le cadavre du chat fut ramassé et heurté au solide plancher par coups successifs, horribles et sourds. Une minute après, la porte, par deux fois, fut ouverte et refermée avec une force effrayante. L'instant suivant, la main, du milieu des ombres, s'étendit vers moi d'un mouvement sournois et rapide. Instinctivement, j'esquivais son étreinte et retirais mes doigts du pentacle électrique où, durant un moment de fatale distraction, je les avais placés. Le monstre fut encore expulsé du voisinage des pentacles. Cependant, grâce à mon inconcevable aberration, c'était la seconde fois qu'il parvenait à surmonter les barrières extérieures. Pendant quelque temps, je tremblais du plus violent effroi. De nouveau, je m'agenouillai au centre des pentacles, tâchant de me faire aussi petit et compact que possible. Je me mis à réfléchir aux 2 accidents qui avaient manqué me livrer à la brute. Étais-je influencé de manière à poser des actes inconscients qui me missent en danger? L'idée me frappa, et je fis attention à mes moindres mouvements. Tout à coup, j'étendis ma jambe fatiguée et renversai un des vases d'eau. Une faible quantité de cette eau fut répandue, mais, grâce à mes soupçons éveillés, je remis en place le vase immédiatement redressé et où restait un peu d'eau. Dans le même instant, l'immense main noire, à demi matérialisée, surgit de l'ombre et m'approcha de si près et si vite qu'il s'en fallut de peu qu'elle ne me frappa au visage. Mais pour la troisième fois, une force énorme, toute puissante, la rejeta en arrière. Sans parler de l'étourdissante frayeur où elle me laissa, j'éprouvais une sensation de défaillance spirituelle, comme si je ne sais quoi d'intérieur, de délicat et de charmant eût souffert en moi. Car tel est l'effet que produit le contact trop immédiat de l'extranaturel, effet plus terrible dans un certain sens que toute douleur physique. Par là même, je connus mieux l'étendue et la proximité du péril. Longtemps, l'action brutale et obstinée de cette force sur mon esprit me dompta. Je ne peux exprimer cela autrement. De nouveau, je m'agenouillai au centre des pentacles, ayant presque aussi peur de moi-même que du monstre. Car je comprenais maintenant que, si je ne me défiais pas de toutes mes impulsions, je pouvais effectuer moi-même ma propre catastrophe, jugée de mon état d'âme. Je passai le reste de la nuit perdu dans un brouillard de morbide frayeur, en proie à une telle anxiété que je n'osais faire aucun mouvement naturel, tant je craignais que tout désir d'agir me fût inspiré par l'influence qui menaçait ma personne. Et le spectre continuait à rôder le long des barrières, se refermant sur le vide dans sa rage de ne pouvoir se refermer sur moi. À deux reprises encore, le cadavre du chat fut secoué. La seconde fois, j'entendis gémir et craquer chacun de ses os. Et pendant tout ce temps, le vent surnaturel continuait à souffler du coin situé à gauche du lit. Ce vent cessa au moment où la première blancheur devint sensible au ciel. Je ne vis plus de traces de la main. L'aube grandissait lentement et sa morne lumière, emplissant toute la chambre, rendait plus blafarde la pâle lueur du pentacle électrique. Pourtant, je n'essayais pas de quitter la barrière avant qu'il fît grand jour. Je me disais que, peut-être, le subit arrêt du vent n'était qu'un piège pour m'attirer hors des pentacles. Enfin, quand le soleil rayonna, brillant et vainqueur, je regardai une dernière fois autour de moi, courus à la porte, l'ouvris d'une façon nerveuse et maladroite, la refermai au plus vite, toujours à clé, et me réfugiai dans ma chambre à coucher, où je me mis au lit et laissai se calmer mes nerfs. Peter se m'apporta mon café. Après l'avoir bu, je lui dis que je désirais dormir, ayant veillé la nuit. Il s'enfuit avec son plateau. Je fermai ma porte à clé, me couchai et m'endormis. Je me réveillai à midi, et après le lunch, retournai à la chambre grise. J'arrêtai le courant du pentacle, ce que j'avais oublié le matin, dans ma précipitation. Je fis disparaître le cadavre du chat. Je ne désirais pas que personne vît la pauvre bête. Ensuite, j'examinai dans le plus grand détail le coin où la literie avait été jetée. Je perforai la boiserie en plusieurs endroits, mais ne trouvai rien. Alors, l'idée me vint de sonder sous la plinthe. Ma sonde heurta quelque chose qui rendit un bruit métallique et que je retirai. C'était un petit objet que je portais vers la fenêtre. Je reconnus un anneau de métal gris de forme pentagonale, c'est-à-dire de la même forme que l'intérieur du pentacle magique, mais sans les monts qui constituent les pointes de l'étoile défensive. L'anneau ne présentait ni pierrerie ni caractère gravé. Vous comprendrez combien cette découverte m'intéressait quand je vous aurais dit que j'étais sûr de tenir en main le fameux anneau fatidique de la famille Anderson. C'est-à-dire la chose du monde en connexion la plus étroite avec l'histoire de la chambre hantée. Cet anneau avait été transmis de père en fils pendant des générations, et toujours, obéissant à d'anciennes traditions familiales, chaque héritier dut promettre de ne jamais porter l'anneau. Celui-ci avait été rapporté d'Orient par un croisé, à la suite de circonstances particulières, mais l'histoire en est trop longue pour que je vous la conte aujourd'hui. Il paraît que Sir Albert, un ancêtre d'Anderson, fit le pari un soir qu'il était ivre de porter l'anneau cette nuit-là. Il n'y manqua point. Le matin suivant, on trouvait sa femme et son enfant étranglés dans leur lit, et dans la chambre même où je me remémorais à présent cet ancien drame. Sir Albert, accusé d'avoir commis le meurtre dans un accès de rage causé par la boisson, s'avisa, afin de prouver son innocence, de coucher la nuit suivante dans le même lit. Lui aussi fut étranglé. Depuis lors, plus personne n'avait passé une nuit dans la chambre grise, jusqu'au moment où je m'y aventurais. L'existence de l'anneau perdu depuis si longtemps était devenue presque un mythe. Aussi éprouvais-je une vive émotion à me trouver là, cet objet entre les mains. Tout à coup, une idée me frappa. Si cet anneau, me dis-je, était en quelque sorte la porte d'entrée, une sorte de trou dans la haie entre ce monde et l'autre, si j'ose ainsi m'exprimer, voyez-vous où je tendais? C'était une idée singulière. Peut-être ne venait-elle pas de moi. Peut-être dois-je y reconnaître une suggestion de l'invisible. Remarquez que le vent inexplicable avait soufflé de cette partie de la pièce où l'anneau gisait. Je méditai longtemps ce point, puis cette forme, l'intérieur d'un pentacle. L'anneau n'avait pas de mont, et que dit le manuscrit Sixsand ? Les monts sont les cinq collines de la sauvegarde. S'il manque, pouvoir est donné aux démons et faveur certaine aux mauvais. La forme même de l'anneau était donc significative. Je résolus d'en tenter l'essai. Je défie mon pentacle, car il doit être fait à nouveau et autour de la personne à protéger. Je sortis, fermant la porte à clé. Je quittai la maison pour aller chercher certains matériaux, car ni les herbes, ni l'eau, ni le feu ne peuvent être employés une seconde fois. Je rentrai vers 7h30. Mes acquisitions transportées dans la chambre grise, je renvoyai Peters comme le soir précédent. Aussitôt débarrassé de lui, je scellai la porte. Je dépaquetai mes matériaux accumulés au milieu de la salle et m'occupai, avec toute la diligence possible, à construire une barrière autour de moi et de l'anneau. Je ne me rappelle pas si je vous l'ai dit, mais voici quel était mon raisonnement. Je pensais que si l'anneau était, de quelque manière, un moyen d'admission et qu'il se trouva enclos avec moi dans le pentacle électrique, il serait, pour le dire en un mot, isolé. La force, dont l'expression visible était une main, se verrait dès lors obligée de rester de l'autre côté de la barrière qui sépare l'anormal du normal. Elle ne trouverait plus de porte d'entrée. Comme je le disais, je travaillais de toutes mes forces à compléter la barrière, car il était déjà bien tard pour séjourner sans protection dans un lieu pareil. En outre, je pressentais qu'un immense effort serait tenté cette nuit en vue de reconquérir l'usage de l'anneau. Car j'étais fortement convaincu que l'anneau était indispensable à la matérialisation. Vous allez voir si je devinais juste. Une heure après, mes barrières s'élevaient complètes. Et je vous laisse à penser mon soulagement quand, une fois de plus, je vis autour de moi la clarté pâle du pentacle électrique. Puis, des heures s'écoulèrent, pendant lesquelles j'attendis, face au coin d'où le vent soufflait d'ordinaire. Vers 11h, j'eus la vague perception de quelque chose près de moi. Cependant, rien n'arriva pendant une heure encore. Alors, soudain, je sentis l'étrange vent froid s'élever de nouveau. À mon grand étonnement, il semblait procéder de derrière moi. Je me retournai, saisi de la plus hideuse épouvante. Il me souffla à la figure. J'écarquillai les yeux, bouleversé par une frayeur nouvelle. Qu'avais-je fait, grand Dieu ? L'anneau était là, tout près de moi, où je l'avais déposé. Soudain, je m'aperçus qu'il s'animait de mouvements bizarres, convulsifs. Je les contemplais stupidement. Or, je constatais que le vent soufflait de l'anneau. Une étrange fumée indistincte devint visible, comme déversée par celui-ci et se mêlant aux ombres mouvantes. Je compris mon danger plus que mortel, car les ombres qui s'enroulaient autour de l'anneau prenaient une silhouette reconnaissable et la main de mort se formait dans le pentacle. Terre et cieux, comprenez-vous ce que j'avais fait ? J'avais introduit moi-même la porte d'entrée dans les pentacles et la brute en sortait. Vomi dans le monde matériel comme du gaz pourrait l'être par l'extrémité d'un tuyau. La terreur me pétrifia 2 secondes. Puis, d'un geste maladroit et affolé, je me précipitai sur l'anneau, voulant le jeter hors du pentacle. Mais il s'évada, comme si un être invisible et vivant l'eût repoussé de ci, de là. Enfin, je l'agrippai. Mais au même instant, une force incroyable et brutale l'arracha à mon étreinte. Une grande ombre noire le couvrit tout entier, monta dans l'air, vint à moi. C'était la main, vaste, presque complète. Je rugis comme un insensé, sautai par-dessus le pentacle et le cercle de bougies et courus vers la porte d'une fuite désespérée. Je m'efforçais, trop stupéfié pour y réussir, de faire jouer la clé dans la serrure. Mais pendant tout ce temps, je regardais avec une terreur confinante à la démence vers les barrières. La main s'agitait et en quelque sorte plongeait dans ma direction. Mais de même qu'elle avait été incapable de pénétrer dans le pentacle quand l'anneau se trouvait au dehors, de même, à présent que l'anneau se trouvait à l'intérieur du pentacle, elle n'avait plus la faculté d'en sortir. Le monstre était enchaîné, aussi sûrement qu'une bête dont on eût rivé les fers. Même alors, j'eus conscience de cela. Mais j'étais trop au sens dessus-dessous pour raisonner. Dès que j'eus réussi à tourner la clé, je m'engouffrai dans le passage et refermai bruyamment la porte. Je ne sais comment j'arrivais chez moi, car je pouvais à peine me tenir debout. Je m'enfermais, allumais ma bougie, me couchais et laissais la réaction nerveuse se produire. Je dormis un peu et me réveillai quand Peters m'apporta le café. Après l'avoir bu, je me sentis mieux et pris le vieil homme avec moi pendant que j'inspectais la chambre grise. J'ouvris la porte et me glissai à l'intérieur. Les bougies brûlaient encore, blêmes dans la clarté du jour. Derrière elles, l'étoile pâlement lumineuse du pentacle électrique continuait à luire. Au centre, l'anneau, la porte du monstre, gisait immobile et commun d'aspect. Rien n'avait été touché dans la chambre, et je me rendis compte qu'à aucun moment, la brute n'avait réussi à sortir des pentacles. Alors je m'en allai et fermai la porte à clé. Je dormis encore quelques heures, puis quittai la maison. Je revins l'après-midi en cabriolet, muni d'un chalumeau oxydrique et de deux cylindres contenant les gaz. Je portais ces choses dans la chambre grise, et là, au centre du pentacle électrique, j'installai le petit fourneau. 5 minutes après, l'anneau funeste, autrefois le porte-bonheur, mais aujourd'hui la malédiction de la famille Anderson, n'était plus qu'une petite tache de métal brûlant. Carnacki fouilla dans sa poche et en retira un objet enveloppé de gros papier. Il me le tendit. Je vis un petit cercle de métal grisâtre ressemblant à du plomb, mais plus brillant et plus dur. Après l'avoir examiné et passé aux autres, je demandai « La chambre, après cela, cessa-t-elle d'être hantée ?» Carnacki s'inclina en signe d'affirmation. « Oui, » dit-il. « Avant de quitter la maison, je dormis 3 nuits dans la chambre grise. Le vieux Peter se faillit s'évanouir quand il apprit que j'avais cette intention. Mais à la 3e nuit, il se rendit compte que la maison était redevenue parfaitement sûre et banale, et je crois bien que, dans le fond de son cœur, il n'approuva point cela. » Carnacki se leva et se mit à distribuer des poignées de main. « Allez-vous-en » dit-il, avec sa brusquerie enjouée. Et chacun de nous retourna pensivement chez soi. C'était « La porte du monstre » de William Hope Hodgson.